talmudique. Voici une histoire qu'aimait raconter Rabbi Nachman de Bratslav. Alors qu'un livre était ouvert devant lui, un roi vit une araignée qui avançait sur la tranche du livre. Sur l'une des pages se trouvait une mouche. L'araignée se lança à la poursuite de la mouche. Et alors que l'araignée avançait vers la mouche, le vent se leva et fit tourner les pages du livre. L'araignée ne put atteindre sa proie et rebroussa chemin, comme si elle abandonnait toute poursuite. L'araignée repartit à la poursuite de la mouche. Elle réussit à poser une patte sur la page où était la mouche. Mais à ce moment-là, la page se souleva et l'araignée se retrouva coincée entre les deux pages. Ayant presque disparu totalement, il ne resta presque plus rien d'elle. Le roi avait observé tout cela et en fut très étonné. Il comprit que ce n'était pas un simple incident et qu'on avait voulu lui montrer quelque chose. Le roi se mit à réfléchir, essayant de trouver une signification. Il s'endormit devant le livre ouvert et il se mit à rêver. Rabbi Nachman concluait toujours son histoire par cette phrase « La mouche, me direz-vous, je ne vous révélerai pas ce qui lui est arrivé ». L'histoire que je viens de raconter est le début de l'un des fameux contes de Rabbi Nachman de Bratslav, connu sous le nom de « La mouche et l'araignée ». Longtemps, je me suis interrogé sur le sens de cette histoire et je suis arrivé à formuler une hypothèse en passant par la langue yiddish dans laquelle cette histoire était racontée, langue dans laquelle l'araignée se dit Spinne, ce qui me fit penser au nom de Spinoza, que l'on prononce Spinoza en allemand et en yiddish, en tout cas, c'est comme cela que mes maîtres yiddishisants le prononçaient. Plus tard, cette hypothèse me fut confirmée par Nietzsche lui-même, qui dans de très nombreux textes rapproche explicitement Spinoza de l'araignée, non seulement par le jeu des sonorités, mais par la manière dont Spinoza réduit le Dieu sauveur à un Dieu métaphysicien, l'infini du divin à la finitude des concepts. La mouche et l'araignée devint pour moi une histoire qui pose la question des rapports entre Spinoza et ses lecteurs. Gilianus, bonjour.
Bonjour.
Gilianus, vous êtes philosophe, spécialiste de Lévinas et de Benny Lévy, dont vous avez été l'un des élèves les plus importants, et vous venez de faire paraître aux éditions Verdier un livre sur Spinoza intitulé « Sans images ni paroles, Spinoza face à la révélation ». Je vous propose, si vous le voulez bien, un parcours en deux émissions. Dans la première, nous aborderons quelques concepts clés de la pensée de Spinoza, et dans la seconde, nous nous concentrerons sur la question de la prophétie. Mais tout d'abord, comment, en tant que lecteur de Spinoza, comment fait écho pour vous ce conte de la mouche et de l'araignée, en suivant ou non l'hypothèse de lecture nietzschéenne que je viens de rappeler?
Alors, je vais commencer par suivre la piste de lecture nietzschéenne, parce que le texte de Nietzsche, enfin l'un des textes de Nietzsche le plus significatif, qui se trouve dans l'Antéchrist, me paraît tout à fait intéressant pour comprendre, ou pour essayer de comprendre, le conte, sans prétendre en épuiser le sens, évidemment, puisque la mouche, on ne nous dira pas ce qu'il en est d'elle. Nietzsche dit que, à force d'être entouré par des araignées, les araignées ici, ce sont les métaphysiciens, les philosophes, qui dans leur abstraction font de Dieu une idée. Dieu lui-même s'est transformé en araignée. Donc c'est Dieu l'araignée. Et cette araignée, c'est en fait Dieu devenu un pur concept, une chose en soi, dit-il. La pire des abstractions. Alors pourquoi l'araignée ? Dans l'Antéchrist, Nietzsche utilise souvent ce mot et il l'utilise comme une insulte, mettons. En tout cas, c'est ainsi qu'il désigne les philosophes. Et au premier plan, Kant, Emmanuel Kant. Il dit c'est une araignée. Alors qu'est-ce qu'il vise par là? Il semble vouloir dire deux choses. Il oppose d'ailleurs Kant à Goethe. Donc Goethe, ce serait le côté vivant de la pensée, de la littérature allemande, le côté artiste, si vous voulez. Et Kant, ce serait la sécheresse du concept. Et donc le côté araignée, peut-être Goethe serait la mouche de Kant. Alors pourquoi l'araignée? L'image semble dire deux choses qui permettent de comprendre. Ce qui caractérise l'araignée, c'est d'abord sa capacité de tisser. Tisser en allemand, c'est spinnen. Spinne l'araignée, spinnen, tisser. Donc de tisser sa toile, de sécréter le fil qui lui permet, moyennant le tissage, d'occuper un espace, de le quadriller, exactement comme les philosophes sécrètent leur doctrine et leur système, même si ce sont des systèmes critiques, comme chez Kant, un système métaphysique. Et aux yeux de Nietzsche, qui a toujours le sens de la formule, les métaphysiciens sont les albinos du concept. C'est sa formule. Alors, je laisse de côté, évidemment, tout ce qui serait sérieux sur la question des albinos. Enfin, j'entends le concept de Nietzsche. Il veut dire par là les abstracteurs, c'est-à-dire ceux qui retirent aux choses réelles toute leur couleur, toute leur sève, hein, toute leur vivacité pour en faire des notions exsangues. Et vous avez ici, en pointillé, subrepticement, l'idée du lien entre l'araignée et le vampire. Donc, le verbe spinnen en allemand, il signifie encore autre chose que tisser, il signifie délirer. Délirer, alors on va reparler du délire des rabbins certainement plus tard avec Spinoza. Le verbe spinnen signifie délirer, dérailler, on pourrait dire en français avoir une araignée au plafond, enfin bon, voilà, hein, pour filer la métaphore. Et c'est une manière pour Nietzsche de suggérer que les systèmes métaphysiques, les grandes constructions philosophiques, ont quelque chose de production délirante, maladive. Alors, le nom de Spinoza, vous l'avez dit, si on le prononce à l'allemande, c'est Spinoza. Effectivement, ça consonne remarquablement avec Spin. Hein. Et parce que Nietzsche parle de la religion, il vise chez Spinoza, parce que la formule qu'il utilise, il dit que Dieu est devenu une araignée, et il ajoute, dans un latin assez ironique à mon sens, humoristique du moins, il ajoute « subspecie Spinozae ». Donc, il paraphrase évidemment la formule très connue de Spinoza qui dit que la raison aborde les choses subspéciées à eternitatis, du point de vue de l'éternité et pas dans une temporalité. Et là, il dit subspecie Spinozae. Donc, Dieu est devenu une araignée sous l'influence, pourrait-on dire, de Spinoza. Précisément parce que chez Spinoza, alors qu'est-ce qu'il vise ? D'habitude, Nietzsche tient Spinoza en grande estime. Il aime beaucoup son geste critique. Mais là, il vise ce qu'on appelle, bon, pour aller vite, mais ce qu'on appelle le panthéisme de Spinoza, c'est-à-dire l'idée que Dieu, ce serait la nature. Et au fond, cette nature, il ne s'agit pas du tout de la nature comme ensemble de réalités existantes, la nature naturée, mais la nature en tant qu'elle produit les choses. Donc un ensemble de principes, hein, et donc une abstraction totale. Ce que veut dire Nietzsche, du coup, c'est que Spinoza, c'est celui qui a accompli au plus loin le geste d'abstraction concernant Dieu. Alors par ailleurs, on raconte que, c'est une tradition comme ça qui se transmet, on raconte que Spinoza aimait précisément à jouer avec des araignées et des mouches, justement, ce dont apparemment, ce que vous m'avez dit, Rabbi Nachman avait connaissance. Et donc, il plaçait des mouches sur une toile d'araignée, il y plaçait plusieurs araignées, et puis il contemplait en riant, ajoute-t-on, en riant, il contemplait ce qui se passait, la lutte des araignées pour non seulement s'emparer des mouches, mais pour s'emparer l'une de l'autre et empêcher l'autre de prendre...
C'est Jaspers qui racontait cette
voilà.
anecdote à
Alors, cette
Anna
anecdote, Arendt. On la trouve à plein d'endroits, mais moi, je l'ai effectivement trouvée dans la correspondance de Karl Jaspers et de Hannah Arendt en septembre 1949. Ils sont en train d'échanger autour de Spinoza et Jaspers rapporte cette anecdote à Arendt qui dit « Ah, c'est totalement fascinant voilà. ». Bon.
Donc, et alors vous, pour vous, Spinoza, c'est une araignée, en êtes-vous la mouche ? Comment ça se passe exactement, Gilanus, dans ce livre ? Sans image ni parole, Spinoza face à la révélation. Quelle est votre attitude, vous, face à Spinoza, comme lecteur ?
Alors, comme lecteur, je viens d'une tradition, parce que c'est ma formation, ce sont les gens que j'ai lus d'abord, je viens d'une tradition dans laquelle Spinoza est considéré comme un traître, en vérité. Hein, une lecture très, très critique de Spinoza. Cette lecture, elle commence, pour ce qui me concerne, dans les auteurs que j'étudie chez Hermann Cohen, puis chez Rosenzweig, en France, Jacob Gordin, évidemment Emmanuel Lévinas, et puis Benny Lévy, mon maître, qui était très très critique envers Spinoza. Donc j'ai cette sensibilité, si vous voulez, quand j'aborde Spinoza. Il se trouve que par ailleurs j'enseigne la philosophie au lycée, et donc j'enseigne aussi très souvent des textes de Spinoza, qui est un auteur assez intéressant, assez stimulant. Je pars dans ma lecture de Spinoza de ce constat que j'ai en moi une certaine image de lui. Alors, pour aller vite, hein, je mets une étiquette dessus, bien entendu. Le traître, traître au judaïsme, bon. Et puis, je constate, en lisant Spinoza, qu'en fait, il y a une autre image de lui qui s'impose partout dans le public cultivé, qui est que c'est un héros. C'est-à-dire, Spinoza, c'est, d'une certaine manière, bon, ce rationaliste absolu, précurseur des Lumières, critique de la superstition. Donc, on a une image, comme ça, deux images, pardon, qui se font pendant. Spinoza le traître, Spinoza le héros. J'aborde Spinoza de cette manière. Et ce que je me dis, c'est voilà, je vais désarmer les deux images. Je vais désarmer les deux images parce que je voudrais sortir de la toile d'araignée qu'elle dessine, précisément. Et qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais me référer à la seule chose qui reste, c'est-à-dire le texte de Spinoza. C'est-à-dire les pages. Vous savez que dans le conte, tel que vous l'avez raconté, finalement, il semble que pour Rabbi Nachman, l'araignée, ce soit les nations hostiles à Israël, la mouche, ce soit Israël. Et qu'est-ce qui protège la mouche de la prédation ? Ce sont précisément les pages. Et le vent, c'est-à-dire les pages, évidemment, c'est le livre, on entend bien de quel livre il peut s'agir. Et puis le vent, alors mettons le souffle. Donc voilà, le livre, en tant qu'il s'accompagne du souffle, ça permet à Israël d'être sauvé.
Le souffle qui veut dire aussi en hébreu l'esprit.
Voilà, qui veut dire l'esprit, oui, bien sûr. Qui veut dire l'esprit et qui n'est pas sans lien avec la question de la prophétie sur laquelle on reviendra à propos de Spinoza. Donc, le livre plus l'esprit ou le souffle, ça permet à la mouche, quelle qu'elle soit, ça permet à la mouche, sinon de se sauver définitivement, parce qu'elle est constamment menacée, mais en tout cas d'échapper parfois dans les interstices des pages à la prédation de l'araignée.
Alors c'est magnifique comme interprétation et je vous en remercie. On a chez Spinoza deux mots importants qui parcourent toute l'œuvre, la nature et l'écriture. La nature, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, deux mots qui renvoient à deux réalités différentes que pourtant Spinoza cherche à comprendre par la même méthode d'enquête. En quoi consiste exactement cette méthode ? Qui est peut-être aussi la méthode que vous avez en revenant au livre, dans ce retour au livre ou à la page que vous avez évoquée, Gélanus.
Alors si vous permettez, je lis très vite quelques lignes de Spinoza qui posent la chose.
Prenez votre temps.
Spinoza dit donc, dans le traité théologico-politique, la chose suivante. Après avoir distingué la nature et puis l'écriture renvoyant chez lui à ce qu'on pourrait appeler la Bible dans sa version chrétienne, hein, parce qu'il englobe sous le terme générique d'écriture la Torah et aussi les évangiles, les actes des apôtres, etc. Donc l'écriture, c'est un tout pour lui. Et il écrit la chose suivante. Je dis que la méthode d'interprétation de l'écriture ne diffère pas de la méthode d'interprétation de la nature, mais lui est entièrement conforme. En effet, la méthode d'interprétation de la nature consiste principalement à mener une enquête systématique. Alors le mot qu'on traduit par enquête, c'est historia, le mot qui a donné histoire chez nous, mais qui veut dire effectivement une enquête. Hein, mener une enquête systématique sur la nature, puis à en conclure, comme de données certaines, les définitions des choses naturelles. De la même façon, pour interpréter l'écriture, il est nécessaire de mener systématiquement et en toute probité une enquête historique c'est historia, à son sujet, puis à en conclure par voie de conséquences légitimes, comme d'autant de données et de principes certains, la pensée des auteurs de l'écriture. Ça, c'est ce qu'écrit Spinoza. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre ? Il faut entendre que Spinoza, dans son effort pour, comme le disent la plupart de ses commentateurs, naturaliser la prophétie, parce que vous savez qu'une des grandes thèses de Spinoza, c'est qu'il n'y a pas d'empire dans un empire, que tout appartient à la nature, que rien ne s'en excepte, donc il n'y a pas de connaissance surnaturelle. Donc, dans son effort pour naturaliser la prophétie, que fait Spinoza ? Il dit, ben voilà, il y a deux objets, la nature d'une part, l'écriture de l'autre. Je vais appliquer à ces deux objets une même méthode. La méthode, c'est celle qu'on utilise dans l'étude de la nature. C'est celle-ci qui va élire, évidemment, comme méthode. Et donc, que fait-on dans l'étude de la nature ? On ne se contente évidemment pas de la sensation, des perceptions que nous avons des choses, mais on fait une enquête systématique pour arriver, au bout du compte, parce que c'est ça la vérité pour Spinoza, pour arriver à saisir les choses qu'on étudie, les choses naturelles donc, sous la forme d'une idée adéquate. Une idée adéquate, ça voudra dire une idée claire et distincte, comme c'est chez Descartes, c'est-à-dire une idée qui permettra de penser toutes les caractéristiques de la chose et par conséquent de la distinguer. Donc voilà la méthode scientifique, si l'on peut dire. Ce n'est pas la science d'aujourd'hui, bien entendu, c'est la science du XVIIe siècle, très inspirée des mathématiques. Donc on cherche dans les phénomènes naturels l'idée, c'est-à-dire l'essence de ces phénomènes, et ça, on y arrive par une étude systématique. Alors maintenant, transposons, il faut faire la même chose pour l'écriture, dit Spinoza. Il faut faire la même chose pour l'écriture, c'est-à-dire qu'il faut aborder l'écriture en se débarrassant de tous les préjugés, les présupposés qu'on voudrait y plaquer. Il faut donc aborder l'écriture comme un phénomène, comme une chose, disons. Et puis, ce phénomène, il va falloir tirer de lui-même, de son étude systématique, puisque le grand leitmotiv dans le traité théologico-politique, c'est que Spinoza prétend n'aborder l'écriture, ne la comprendre qu'à partir d'elle-même, ab ipsa scriptura sola, à partir de l'écriture elle-même seulement, dit Spinoza. Donc, évidemment, manière pour lui de se débarrasser de tous les commentaires, de tout ce qui vient surcharger l'abord au texte. Et donc, on prend ce texte, les Écritures, et on va appliquer une méthode comparable. En fait, ce n'est pas tout à fait la même, puisque l'objet est différent, mais une méthode comparable à celle des sciences de la nature. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une étude linguistique, si c'est possible, On a un problème avec la langue hébraïque, selon Spinoza, puisque cette langue, les anciens ne nous ont laissé ni grammaire, ni rhétorique, ni dictionnaire. Bon, donc il y a toujours une forme d'incertitude, sans parler de l'absence de rigueur, selon lui, de la langue. Bon, il connaissait très bien l'hébreu, par ailleurs, parce qu'il a fait un abrégé de grammaire hébraïque. Donc, on fait une étude linguistique ou on fait une étude historique. Le but étant donc sur les conditions de production, sur qui a écrit tel ou tel livre, enfin, ce qu'on peut en tout cas en supputer, etc. Et puis, à partir de cette étude rigoureuse, on va aboutir à quelque chose qui ressemble aux définitions des choses, c'est-à-dire aux idées claires et distinctes. Et ce quelque chose, eh bien, c'est la pensée des auteurs, dit-il. C'est-à-dire, d'une certaine façon, il s'agit pour Spinoza d'aller chercher dans les textes, je vais le dire comme ça pour faire entendre, non pas un sens, peut-être, mais l'intention de leurs auteurs.
Jacques Loussier, qui nous a quittés cette semaine, ce très beau pianiste qui aimait particulièrement Bach, qui a joué Bach, comme il dit dans les titres de ses albums, Playback, et même écrit un livre sur Bach qu'il appelle Bach Book, et ça j'ai beaucoup aimé le jeu de mots, je ne sais même pas s'il en était conscient. On va parler de la musique chez Spinoza dans quelques instants, mais d'abord il faut revenir à cette question de la vérité que Spinoza découvre dans les livres et dans la nature. Et il fait une distinction par cette enquête, par cette historia dont vous nous avez parlé, une distinction fondamentale entre croire et connaître et par la suite entre entendement et illusion. J'aimerais que on précise ces termes pour pouvoir continuer la conversation.
Alors connaître, pour Spinoza, ça veut dire atteindre la chose, atteindre l'idée de la chose, l'idée claire et distincte. La connaissance, elle relève effectivement de cette faculté qui est l'entendement, capacité que nous avons de saisir les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est la connaissance. Et la connaissance, qui nous donne accès donc à la vérité, cette connaissance nous donne accès à une idée qui contient en elle-même sa propre certitude. C'est une des caractéristiques de la vérité chez Spinoza, c'est qu'elle est index sui, elle s'indique elle-même. En revanche, la croyance, ça comporte toujours une dose d'incertitude. On croit, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout à fait, et ça renvoie à cette autre faculté de l'esprit humain, c'est très classique, hein, qui est l'imagination. Il y a et il y aura toujours ce que Spinoza appelle fluctuation animi, c'est-à-dire cette espèce de flottement de l'âme qui croit, qui voudrait bien croire, mais qui ne croit pas tout à fait, mais qui ne sait pas tout à fait. Donc cette espèce de balancement entre certitude et incertitude qui fait que le croyant, celui qui croit, aura toujours besoin d'ajouter à sa croyance un adjuvant qui la rendra à ses yeux certaine pour un temps donné. Cet adjuvant, ça peut être, par exemple, le miracle.
Alors, cette enquête va mener à la distinction entre connaître et croire, entre entendement et imagination. Je me suis demandé, est-ce que sa modernité ne se situerait pas dans cette attention précise à la vérité, à la possibilité de distinguer le vrai du faux, ce qui est une urgence dans notre ère de la postmodernité, et plus précisément de la post-vérité, terme entré dans le dictionnaire Oxford en 2016, qui est défini cette post-vérité comme circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour former l'opinion publique que l'appel à l'émotion et aux croyances personnelles. Dans un essai intitulé Total Bullshit et sous-titré Au cœur de la post-vérité, Sébastien Dieguez, à la suite de Harry Frankfurt, précise que la post-vérité est différente du mensonge, qui a encore un rapport au réel. La post-vérité, que souligne le concept très sérieux de bullshit, est une indifférence à l'égard de la vérité et indifférence à l'égard des moyens d'accéder à la connaissance. Et je demande si la position de Spinoza dans cette recherche de la vérité n'est pas quelque chose de très utile aujourd'hui pour nous défaire de cette post-vérité indifférente à la vérité. Gilanus.
Alors à mes yeux, s'il est une modernité de Spinoza, je ne suis pas sûr, moi, du sens de ce mot, mais s'il est une modernité de Spinoza, elle se trouve dans l'intensité avec laquelle il a répété le geste, à mes yeux, fondamental de la philosophie, c'est-à-dire ce geste qui consiste à s'opposer, alors je vais le dire dans les mots de Spinoza, qui consiste à s'opposer au penchant vulgaire en nous. Vulgaire, vulgus, donc le peuple, la foule. Parce que, de fait, ce que vous dites sur la post-vérité consonne très fortement avec ce que Spinoza dit du vulgaire. Hein, lorsqu'il oppose, ou lorsqu'il distingue en tout cas la connaissance naturelle, par entendement, la connaissance rationnelle et la connaissance prophétique, donc imaginaire à ses yeux, il montre que, voilà, si nous trouvons en nous, grâce à l'entendement, la vérité, la question se pose de savoir, mais pourquoi est-ce que nous aurions alors besoin d'une autre forme de vérité, la vérité prophétique? Et c'est là que Spinoza entre dans une sorte d'analyse de la psychologie de la foule, si vous voulez, pour le dire ainsi. Et il constate la chose suivante, il dit, voilà, mais le vulgaire, finalement, ça n'est pas seulement l'ignorant. Bien sûr que la foule est incapable de comprendre les choses qui sont en soi peu difficiles, dit Spinoza. Il a un côté très socratique, très platonicien de ce point de vue-là. Bien sûr qu'il y a de l'ignorance, mais il y a plus que de l'ignorance. Il y a, chez le vulgaire, et c'est une définition du vulgaire très forte dans le premier chapitre du traité théologico-politique, un refus de la connaissance naturelle. Pourquoi ? Parce que la connaissance naturelle, d'une certaine manière, elle est trop banale. Alors que tout ce qui relèverait du miracle, du surnaturel, des choses dont on n'a absolument pas coutume, tout ce qui est en vérité spectaculaire, c'est un mot très important dans le traité théologico-politique, ça emporte bien, bien davantage la croyance du vulgaire. Donc le vulgaire, c'est celui qui préfère croire ce qui, disons, le caresse dans le sens du poil.
La société du spectacle,
voilà, la société du spectacle, oui. On pourrait dire ça ainsi. Mmh. Et il y a dans cette... donc, si vous voulez, pour dire que cette question de la post-vérité, bien que sous cette formulation, elle soit tout à fait moderne, mais c'est une question, en vérité,
tout à fait classique,
qui a toujours hanté la philosophie, c'est déjà la question de la caverne chez Platon. Et Spinoza est moderne au sens où, effectivement, là-dessus, il est intraitable. Sur ce point, il est tout à fait philosophe, c'est-à-dire intraitable avec les représentations imaginaires par lesquelles nous construisons des grandes explications du monde.
Dans l'ensemble du questionnement soulevé par Spinoza et au cœur des notions que nous venons d'aborder, je me suis demandé quel est le statut de la musique chez Spinoza. Touche-t-elle plus à l'imagination qu'à la raison, à moins qu'il faille dire que la musique soit de l'ordre de la nature par la dimension mathématique et géométrique des sons, alors que les paroles, par le fait qu'elles font intervenir le langage, seraient de l'ordre de l'écriture et donc de l'ordre de l'imagination, voire de la révélation prophétique que vous avez évoquée. Et dès lors, une cantate pourrait être à la fois une sorte de mixte, Gilanus.
Alors, à ma connaissance, Spinoza ne parle pas très souvent de la musique. Il y a deux occurrences au moins dans l'éthique, ce sont les deux que j'ai trouvées. Au début du quatrième livre de l'éthique, Spinoza dit que voilà, la musique fait partie de ces choses qui peuvent être en même temps bonnes ou mauvaises, ou ni l'une ni l'autre, c'est-à-dire ni bonne ni mauvaise, c'est-à-dire indifférente. Elle peut être bonne pour le mélancolique, c'est l'exemple qu'il prend. Elle peut être mauvaise pour celui qui est affligé, et elle peut être indifférente pour le sourd. Donc, bon, c'est essentiellement quelque chose qui touche nos affects. Et donc, on est du côté du corps, ce qui veut dire que chez Spinoza, on est plutôt du côté de l'imagination. Et dans l'appendice au livre 1 de l'éthique, également, il parle du rôle de l'imagination affectée par les sens et des notions vulgaires du bien et du mal, disant que finalement, nous appelons bien ce qui nous fait du bien et mal ce qui nous procure un malaise ou une souffrance. À ce moment-là, il parle de la musique comme harmonie. Il dit, voilà, les hommes préfèrent ce qui est harmonieux, mais harmonieux à leurs yeux, s'entend. Et du coup, il prétend que l'harmonie va, donc la musique, va jusqu'à faire croire aux hommes que Dieu aussi trouve du charme à l'harmonie. Et que les philosophes n'ont pas manqué pour délirer sur le fait que les mouvements célestes produisaient une produisait une harmonie. Donc, il s'agit pour lui, ici, de quelque chose qui relève du délire, à nouveau, donc de l'imagination. Maintenant, si on imaginait une musique s'accompagnant de paroles, comme la cantate dont vous parliez, il faudrait dire, je crois, sous réserve de vérification plus poussée dans l'œuvre de Spinoza, mais il faudrait dire que la musique relève de l'imagination et de l'affect, la parole redouble ou redoublerait, à mon sens, le côté imaginaire ou s'adressant à l'imagination de la musique.
Si la musique est un mot important dans notre conversation, Gilles Lanus, c'est que dire musique, c'est immédiatement parler d'interprétation. Le musicien interprète une partition. Ce n'est pas seulement une lecture des notes, ce qui peut se faire sans instrument. Glenn Gould ne joue pas les variations Goldberg, comme le fera plus tard Andreas Schiff ou Barenboim, ou encore Ekaterina Derzavina, ou encore Jacques Loussier que nous avons entendu. Et pourtant, ce sont les mêmes notes. Ces interprétations peuvent se comprendre dans deux sens différents et opposés. Soit les interprètes cherchent à retrouver au plus près l'intention de l'auteur et du compositeur, soit ils pensent qu'il est possible de donner une touche, une sonorité, une ambiance, une couleur différente qui correspond à un choix plus personnel, une forme de singularité et d'innovation. On retrouve le même problème, la même tension en ce qui concerne les textes et leur compréhension. Et la position de Spinoza est au cœur de ces enjeux. Lévinas a souvent parlé à ce propos de l'opposition entre genèse et exégèse. Gilles Lanus.
Alors, l'interprétation, quand elle s'applique au texte, puisqu'on va passer effectivement de la musique au texte, l'interprétation, mais c'est vrai que la musique est un exemple par excellence de la chose, l'interprétation, quand elle s'applique au texte, aux yeux de Spinoza, me semble-t-il, relève de ce travail de l'imagination qu'on plaque sur des idées. Chez Spinoza, ça prend la forme suivante. Pour lui, il faut aborder l'écriture, non pas en vue d'une interprétation, c'est-à-dire en essayant de saisir en elle, dans sa patte, si je puis dire, dans son caractère concret, dans ses lettres, dans sa littérature au sens de Lévinas, c'est-à-dire le déploiement de ses lettres, non pas pour essayer d'y saisir quelque chose qui se dirait, mais précisément, il faut considérer les lettres comme des oripeaux, si l'on peut dire, qui viennent se surajouter à la vérité. Et le travail de lecteur de Spinoza, pour autant qu'on puisse parler de lecture dans ce cas-là, c'est un travail presque d'élagueur. C'est-à-dire il s'agit d'enlever, il s'agit de doter tous les oripeaux pour accéder à quelque chose qui serait la vérité nue, si je puis dire. Et il y a une doctrine très forte chez Spinoza de cela, qui s'articule à la doctrine de la prophétie, bien entendu. C'est que à ses yeux, l'écriture, au fond, traduit dans un langage inadéquat quelques vérités qui, elles, sont essentielles. Le but de Spinoza, c'est de revenir à ces vérités essentielles qui sont, moi je les qualifie comme ça, pour distinguer de l'écriture, qui constituent le texte naturel, le texte de la nature. Évidemment, l'analogie avec le livre est forte. Mais pour Spinoza, toute la tâche dans l'abord des textes consiste à revenir en deçà de toute interprétation, dans les deux sens de l'interprétation où on donne du sens et dans le sens aussi de l'interprétation où on traduit. Parce que précisément, toute traduction est nécessairement en dessous de ce qu'il faut atteindre pour Spinoza. Donc il faut revenir à ce texte de l'appel naturel volontairement, c'est-à-dire un texte qui n'est écrit au fond nulle part, sinon dans nos cœurs, dira Spinoza. Bon.
Et donc, comme exemple de ce livre naturel, c'est la morale.
Alors, chez Spinoza, c'est ce qu'il va appeler l'écriture universelle. L'écriture universelle, au fond, selon lui, c'est ce qui se trouve au cœur, mettons, de l'écriture, avec une majuscule. Et cette écriture universelle, elle tient effectivement en sept dogmes, qui sont les dogmes de la religion universelle, tout simplement, et qui sont pour l'essentiel, effectivement, des dogmes moraux, qui permettent aux hommes qui n'ont pas la capacité de penser et donc de connaître par l'entendement, de mener malgré tout une vie conforme à la raison.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans cette recherche de la vérité nue qui enlève les oripeaux, qui ne travaille pas la matière, qui va juste à la genèse et non pas dans l'exégèse qui pourrait naître, c'est-à-dire dans l'inventivité que la lettre comporte, est-ce qu'il n'y a pas un manque de fiction chez Spinoza? Est-ce qu'il ne sait pas que l'imagination est quelque chose qui est important pour vivre? Est-ce qu'il a oublié ou il n'a pas senti en lui la nécessité du roman, de la poésie, de la littérature en général? Est-ce qu'il était vraiment impossible pour lui de sentir cette vibration nécessaire à la vie?
Alors, il y a dans le rationalisme radical de Spinoza, c'est-à-dire dans son geste philosophique, j'ignore ce qu'il en était pour l'homme, bien entendu, mais dans son geste philosophique, il y a nécessairement une déprise constante de tout ce qui renvoie à l'imagination, et donc de toute forme de littérature. Cependant, on peut effectivement s'interroger. Parce que ça, c'est le côté par lequel Spinoza, si vous voulez, n'est pas moderne du tout, pour le coup. Parce que dans son abord des textes, il est bien en deçà de tout ce que la critique littéraire, même du XXe siècle, va déployer comme attention aux différentes strates du sens, aux différentes couches, au pouvoir dire, etc. À cet au-delà, toujours compris dans le texte lui-même, évidemment, je fais référence à l'au-delà du verset d'Emmanuel Levinas. On peut se demander si finalement, dans la volonté qu'a Spinoza de revenir à ce texte naturel, il n'y a pas quelque chose, dans la reconstitution de ce texte naturel, quelque chose d'une fiction au bout du compte. Et on pourrait parfaitement, je crois, aborder l'éthique comme étant, mettons une fiction d'après la fiction, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste une fois qu'on a dépouillé entièrement l'esprit humain de l'imagination? Il ne reste que l'entendement. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans cette histoire, si je puis dire, enfin, histoire au sens spinoziste, mais dans cette histoire de l'entendement déployant lui-même toutes ses potentialités, toutes ses possibilités à partir de définitions qu'il tire de lui-même, d'axiomes qui en découlent, puis de propositions qui sont démontrées, est-ce qu'il n'y a pas là, finalement, une sorte de roman de l'entendement?
Merci infiniment, Gilles Anus, de nous avoir aidés à entrer dans la pensée d'un philosophe réputé pour sa complexité. Les différentes notions présentées aujourd'hui nous permettront d'aborder la semaine prochaine la question plus précise de la prophétie chez Spinoza. Je rappelle le titre de votre livre « Sans images ni paroles, Spinoza face à la révélation » paru aux éditions Verdier, une maison d'édition formidable que je salue et qui fête cette année ses 40 ans. Bon anniversaire. Merci encore Gilles Anus.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Claire Levasseur, à la réalisation, comme d'habitude, Dany Journeau, Coltouve, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.